partit de Jérusalem dans l'après-midi, probablement après le sacrifice du soir qui se faisait à cette époque-là vers 3 heures de l'après-midi. Ils se sont dirigés vers leur village, Emmaüs, et ils avaient environ 3 heures de marche à faire. Ils sont sortis de Jérusalem et ils ont pris ce chemin qui descend de Jérusalem à Emmaüs. C'était une belle journée de printemps. L'air était rempli du parfum du printemps, des fleurs. Une belle journée. Dans les champs, il y a les troupeaux, il y a les animaux avec les petits qui viennent de naître. Ils ont traversé des bois et puis ils ont traversé les champs et ils se sont dirigés gentiment vers leur village, regardant le soleil qui descendait vers l'horizon. Et lorsqu'ils sont arrivés dans leur village, le soleil était très bas sur l'horizon, prêt à se coucher. Mais ils n'ont rien vu de ce beau paysage. Ils n'ont rien vu de ce beau paysage parce qu'ils étaient tellement pris par leur douleur, par leur tristesse, tellement pris par leurs préoccupations. En fait, ils étaient complètement dévastés, complètement désorientés, complètement déprimés, complètement désarmés. Ils avaient repassé dans leur esprit les événements des deux derniers jours et ils ne comprenaient toujours pas ce qui s'était passé. Ils avaient été pris par surprise parce qu'ils étaient venus à Jérusalem pour fêter la fête de Pâques. Mais ils avaient un grand attachement à Jésus. Et voilà qu'on a mis Jésus à mort. Ils s'attendaient à tout sauf à ça. Ils avaient appuyé tout leur espoir sur Jésus et ils avaient cette idée que Jésus allait être le libérateur d'Israël, comme tout le monde d'ailleurs, comme les disciples. Tout le monde avait cette idée que le Messie devait être le libérateur d'Israël. Et puisqu'ils avaient accepté que Jésus était le Messie, c'est ça qu'ils attendaient de lui. Et tout d'un coup, on met Jésus à mort. Tout leur espoir, toute leur foi s'effondre véritablement. Et ils sont là désorientés. Toute leur vie a perdu son sens. Ils ne savent plus quoi faire. Et ce jour-là, après le sacrifice du soir, ils rentrent chez eux, désabusés, déçus, révoltés. C'est là que Jésus les rencontre en chemin. En fait, ses disciples sont des disciples inconnus. Ils sont inconnus de l'Évangile jusque-là. Dans ce récit qui nous est rapporté par l'Évangile de Luc au chapitre 24. On connaît le nom de l'un d'eux, Cléopas. On ne connaît pas le nom de l'autre, peut-être c'est sa femme, tout simplement. Ces deux disciples inconnus marchent sur le chemin pour rentrer chez eux, déçus, complètement anéantis par les événements des deux derniers jours. Et c'est là qu'un autre inconnu les rencontre en chemin. Un autre inconnu. Un inconnu qui semble ne pas savoir ce qui se passe dans la région et qui leur dit « Mais c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que vous êtes triste comme ça? Comment tu ne sais pas ?» Et vous imaginez ces disciples qui s'arrêtent indignés devant ce visiteur qui ne connaît rien à l'actualité de Jérusalem. Tout le monde en a parlé, ça a fait du bruit à Jérusalem, cette crucifixion, juste au moment où on allait célébrer Pâques, quelques heures avant que l'on prenne le repas de Pâques. Alors, Jésus va les écouter. Ils vont vider leur tristesse, ils vont vider leur déception, ils vont vider leur désarroi, ils vont parler à Jésus de tout ce qu'ils ressentent, de tout ce qu'ils ont vécu, de leurs espoirs déçus. Et ils s'arrêtent en chemin pour expliquer à Jésus, « Mais enfin, tu comprends ce qui s'est passé, c'est grave, c'était lui qui devait libérer Israël, voici que nos chefs l'ont mis à mort. » Et pendant des heures, ils vont vider leur sac plein d'amertume. Et Jésus va écouter. Lorsqu'ils auront vidé toute cette amertume intérieure, à ce moment-là, Jésus va pouvoir les remplir de sa parole. D'ailleurs, il s'adresse à eux et il leur dit « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. » Jésus n'est pas en train de leur dire, « Mais écoutez, c'est moi, je vous ai tout expliqué, vous ne vous souvenez pas ?» S'ils se souviennent, ils se souviennent par exemple que les femmes sont allées au tombeau, ils en parlent Mais bon, ils ne vont quand même pas croire les femmes. Les disciples sont allés, eux non plus n'ont rien vu. Pourtant, les ennemis de Jésus, eux, s'en souviennent. Et ils s'en souviennent si bien qu'ils vont prendre les dispositions pour ne pas être piégés encore avec cette déclaration de Jésus. Mais eux, les disciples d'Emmaüs, ils mettent ça de côté. Jésus est mort. Ô homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Et le texte nous raconte que, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus va leur faire une étude biblique exemplaire sur la mission du Messie. Il y a en fait dans l'Ancien Testament tout ce dont ils ont besoin pour comprendre qui est le Messie, quand il doit venir, ce qu'il doit faire, quelle est sa mission et qu'il doit finalement mourir. C'est là qu'est le libérateur. Et Jésus va leur faire cette étude biblique exemplaire. Je paierai cher pour en avoir un enregistrement. Jésus va leur expliquer sur la base de l'Ancien Testament, des prophètes. Il ne va pas leur dire « Je vous ai dit ceci ». Il va leur dire « Souvenez-vous qu'il est écrit cela ». Ce faisant, Jésus va donner aux Écritures toute leur valeur. Les Écritures, et dans le cas particulier l'Ancien Testament, sont pour Jésus la norme, l'autorité suprême. Jésus va s'y référer pour expliquer qui il est, pour leur faire comprendre que leur conception du Messie n'est pas celle des Écritures. Leur vision du libérateur, c'est la vision judaïque du libérateur. Ce n'est pas la vision biblique du Messie. Et Jésus va leur citer par cœur tous ces textes de l'Ancien Testament, depuis le début jusqu'à la fin, citant tous les prophètes qui ont parlé du Messie, qui ont expliqué quelle allait être sa mission et qu'il allait finalement mourir pour les pécheurs. Ils vont écouter attentivement. Jésus va là enseigner une leçon qu'il est bon pour nous de retenir. Dans le même évangile, d'ailleurs, l'évangile de Luc, quelques chapitres avant, au chapitre 16, après avoir raconté une parabole, Jésus va enseigner la même leçon. Ici, Jésus, dans sa parabole, met cette parole dans la bouche d'Abraham, un des personnages de sa parabole, et il dit, verset 30, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » La parole de Dieu est la norme. Jésus ne veut pas que les disciples le suivent pour la mauvaise raison. Jésus ne veut pas que ses disciples soient ses disciples par émotion, par sentimentalisme. Jésus veut que ses disciples soient ses disciples parce qu'ils sont convaincus de qui il est et qu'ils l'acceptent comme leur sauveur personnel. Les Écritures rendent témoignage de moi, disait-il. C'est là qu'il réfère les disciples d'Emmaüs. Alors ils arrivent finalement tout près d'Emmaüs. Le ciel est coloré de toutes les couleurs que le ciel donne sur le soir. Ayant terminé son étude biblique, les disciples se sentent bien. Ils ont découvert quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Ces Écritures qu'ils connaissaient, bien entendu, aujourd'hui prennent une couleur tout à fait différente. Et Jésus est prêt à continuer son chemin. Et il l'arrête. « Non, reste avec nous !» Et Jésus dit, non, je vais continuer mon chemin. Non, c'est tard, reste avec nous. Et le texte est intéressant. Au verset 28, je suis là dans l'évangile selon Luc au chapitre 24, où il est dit, lorsqu'ils furent arrivés près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Ils ont dû insister pour que Jésus reste chez eux. Ça me rappelle cette histoire que l'on a dans Genèse au chapitre 19, où il nous est raconté que Lot est assis à la porte de la ville et qu'il voit venir des visiteurs, des étrangers. Et hospitalité oblige, Lot les invite à rester. Et ils disent, non, nous dormirons dans la rue. Il est dit, Lot les pressa tellement que finalement ils acceptèrent de venir dans sa maison. Lot a dû insister, Lot a dû implorer qu'il vienne, qu'il rentre. Et c'était justement les anges qui venaient de la part du Seigneur pour le sauver. Que serait-il arrivé si Lot n'avait pas insisté? Que serait-il arrivé si les disciples d'Emmaüs n'avaient pas insisté, n'avaient pas pressé Jésus de rentrer dans leur maison ce soir-là? S'ils n'avaient pas insisté à ce point, ce chapitre ne serait pas dans l'Évangile. Jésus aurait continué son chemin et personne n'aurait jamais su qui était ce voyageur qui connaissait l'Ancien Testament sur le bout des doigts. Nous sommes aussi invités aujourd'hui à insister pour que le Seigneur soit partie intégrante de notre vie. Nous sommes invités à insister dans la prière, par exemple. Je pense à ce passage de l'Épître aux Éphésiens, où l'apôtre Paul, au chapitre 6, écrit ceci. Prenez ce texte avec moi dans Éphésiens, chapitre 6, verset 18, où il est dit, Éphésiens, chapitre 6, verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Insister. Bien entendu, la prière n'est pas là pour informer Dieu sur nos besoins. Il est au courant, il le sait. Mais la prière est là pour nous préparer à recevoir la réponse que nous demandons. La prière n'est pas là pour faire descendre Dieu jusqu'à nous. La prière est là pour nous élever jusqu'à lui. Le Seigneur veut comprendre dans notre prière à quel point nous acceptons d'être dépendants de lui, parce qu'en réalité, il est la seule solution que nous avons. Sa solution, c'est la seule pour nous que nous pouvons accepter, que nous pouvons recevoir. De là notre insistance, de là notre volonté en disant « Seigneur, je n'ai qu'une ressource, c'est toi ou rien ». Les disciples d'Emmaüs ont pressé Jésus de rentrer chez eux. Ils sont rentrés, ils ont probablement lavé les pieds à ce visiteur, comme l'hospitalité le demande. Et puis ils ont préparé le repas du soir. Et là, il s'est passé quelque chose. Ils se sont assis autour de cette table toute simple, avec du pain, du jus de raisin, des fruits peut-être, d'autres choses. Mais le vocabulaire qui est employé dans notre texte de Luc 24 est intéressant. Il est dit au verset 30, pendant qu'il était à table avec eux, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Ce repas n'est pas une sainte cène. Cependant, le vocabulaire qui est employé ici est exactement le même qui est employé dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, pour nous parler de ce que Jésus a fait lors de la multiplication des pains. C'est aussi le même vocabulaire qui est employé pour la Pâque que Jésus va célébrer, le repas de Pâque que Jésus va célébrer avec ses disciples. Il y a là quatre verbes. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le leur donna. Ces mêmes quatre verbes sont utilisés pour plusieurs actions de Jésus. Et il est intéressant de voir que dans le livre de l'Exode, au chapitre 6 et au verset 6, se trouve un passage qui est très cher aux Juifs dans la célébration de la Pâque. Regardez ce passage avec moi. Exode chapitre 6, à partir du verset 6. Exode chapitre 6, à partir du verset 6. Il est écrit ceci. C'est pourquoi dites aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Lors de la célébration de la Pâque, il y avait quatre coupes. À quatre moments différents, on buvait la coupe, le jus de raisin, dans la célébration de la Pâque. La tradition voulait que ces quatre coupes étaient justifiées par les quatre verbes qui sont employés dans ce texte. et qui parle de la délivrance de Dieu, où il est dit « Je vous affranchirai, je vous délivrerai, je vous sauverai, je vous prendrai pour mon peuple. » Ces quatre verbes de délivrance étaient reçus comme les quatre justifications des quatre moments où dans la Pâque on buvait la coupe. Curieusement, ici, Jésus, lorsqu'il célèbre la Sainte Cène, lorsqu'il multiplie le pain pour nourrir le peuple, lorsqu'il prend ce repas avec les disciples d'Emmaüs, va agir de la même manière au point que les évangélistes vont traduire cette action de Jésus de la même manière par quatre verbes qui nous rappellent que Jésus est véritablement celui qui nous délivre, qui nous sauve, qui nous affranchit, qui nous prend pour son peuple. Le repas dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau est souvent associé à la notion d'alliance. On partage un repas avec celui avec qui on fait un contrat, avec quelqu'un avec qui on s'associe. Le repas, c'est un repas d'amitié, au point que si on refuse un repas, c'est véritablement un affront. C'est une déclaration de guerre. Refuser un repas, c'est vraiment dire à celui à qui l'on refuse, « T'es mon ennemi ». Le repas est toujours un repas de communion dans le contexte biblique. Dans plusieurs textes de l'Ancien Testament, l'alliance est scellée dans un repas. Ici, les disciples vont partager ce repas tout simple avec ce visiteur qu'ils ont forcé d'entrer chez eux. Mais c'est véritablement un repas d'alliance. Tout le long du chemin, Jésus leur a donné le pain. Il leur a donné le pain qui est la parole de Dieu, sa parole. Et maintenant, au moment où ils rompent le pain, c'est là qu'ils le voient. Ce repas est véritablement un repas de nouvelle alliance parce que leur conception sur Jésus a totalement changé. Ils ont abandonné leur vision judaïque du Messie qu'ils avaient collé sur Jésus. Ils ont reçu ce que la parole de Dieu donnait comme explication du ministère de Jésus, et il disait « Notre cœur brûlait au-dedans de nous », alors que cette parole prenait vie, prenait sens à leurs yeux. Alors, au moment du repas, c'est véritablement une nouvelle alliance. C'est une nouvelle relation qu'ils établissent avec un nouveau Jésus dans leur conception maintenant restaurée selon les Écritures. Ce n'est plus le même Jésus d'avant. C'est un autre Jésus, c'est le Jésus des Écritures, c'est le Fils de Dieu, c'est leur Sauveur personnel, celui qui vient de mourir pour eux 2 jours avant. Ce repas représente véritablement une nouvelle relation entre ces 2 disciples et Jésus. Et c'est là qu'il disparaît. Histoire frustrante, on voudrait qu'il reste là avec eux. Mais si Jésus était resté là avec eux, ils l'auraient attrapé, ils ne l'auraient jamais laissé partir, ils l'auraient gardé pour eux. Parce qu'au moment où ils partagent ce repas et au moment où Jésus s'en va, il se passe quelque chose d'important pour ces 2 disciples. Ils sont disciples, nous dit le texte. Dans Luc chapitre 24, au début du récit, au verset 13, il est parlé des 2 disciples. Mais à partir du moment où Jésus disparaît de leurs yeux, au moment où ils réalisent que c'est lui-même qui les a enseignés tout le long du chemin, ces 2 disciples deviennent maintenant des apôtres. Ils deviennent maintenant des envoyés. Ils deviennent maintenant porteurs d'une bonne nouvelle, de la bonne nouvelle concernant Jésus, leur Sauveur. Ils ont appris à le connaître. Ils l'ont rencontré. Maintenant, ils vont le crier partout. Ils reprennent leur bâton de marche. C'est la nuit, peu importe. C'est dangereux, peu importe. Il y a 12 kilomètres à faire, c'est pas grave. Ça monte d'Emmaüs à Jérusalem. Ils vont faire ce voyage en courant, ils vont prendre des raccourcis, ils vont se perdre. Ils sont partis en mission, dynamisés par ce qu'ils ont vécu avec le Christ dans les heures qui viennent de se passer. Mais alors qu'ils quittent leur maison de nouveau précipitamment, le repas qu'ils avaient à peine commencé est encore là sur la table. C'est un repas inachevé. Ce repas, en fait, il est ouvert. C'est un repas ouvert à tous ceux qui veulent faire cette expérience que les disciples d'Emmaüs ont faite, d'apprendre à connaître le Christ, de le rencontrer personnellement, de le recevoir comme leur sauveur. Ce repas est ouvert. D'ailleurs, vous vous souvenez, Jésus avait dit « Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne et je ne mangerai plus de ce pain jusqu'à ce que j'en boive et que j'en mange de nouveau dans le royaume de mon Père. » J'imagine que Jésus est impatient de prendre ce repas à nouveau avec nous. En fait, ce prochain repas, c'est le repas des noces de l'agneau. Jésus n'arrive plus à attendre. Il attend avec impatience de prendre ce repas avec nous. Ce repas est ouvert. Il est ouvert pour tous ceux qui veulent recevoir Jésus de cette manière-là, comme leur sauveur, celui qui a donné sa vie pour eux, pour chacun d'entre nous. Un repas ouvert jusqu'à ce que Jésus revienne. Notre cœur, disait-il, ne brûlait-il pas au-dedans de nous alors qu'il nous expliquait les Écritures? Ils ont compris que leur cœur s'est réchauffé, que leur cœur s'est consolé, que leur vie a changé parce qu'ils ont été confrontés aux Écritures. Vous vous souvenez, Jésus, dans l'évangile de Jean, avait déjà parlé de la puissance des Écritures. Regardez ce texte dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 30, où il est dit, « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » C'est la vérité qui affranchit, ce n'est pas l'erreur. Tant qu'ils étaient dans l'erreur, ils voyageaient tristes, la tête basse, accablés, sans direction dans leur vie. Mais ils ont été confrontés à la vérité de la parole de Dieu. Seule la vérité nous ouvre les yeux sur nous-mêmes et sur Jésus. Seule la vérité des Écritures nous donne la joie du salut. Nous ne sommes pas transformés par l'erreur, nous sommes transformés par la vérité. Jésus dit « Je suis la vérité ». Il faudra donc connaître Jésus pour qui il est vraiment, comprendre sa mission pour ce qu'elle est vraiment, avant d'avoir notre cœur vivifié par la rencontre avec lui. Maintenant, les disciples reprennent le chemin. Ils courent, ils se dépêchent, ils ont quelque chose à dire. Mais on est frustré comme eux en lisant cette histoire parce qu'on aurait voulu que Jésus reste avec eux et les console. Non, Jésus s'est évaporé. En réalité, le texte nous montre que non. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 24 et au verset 36, il nous est dit « Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. » Les disciples sont arrivés à Jérusalem, essoufflés. Ils frappent à la porte de cette chambre haute où se trouvent les disciples, les autres. On leur ouvre et il y a là une excitation extraordinaire. En fait, tout le chemin qu'ils ont fait d'Emmaüs à Jérusalem, Jésus l'a fait avec eux et il est rentré avec eux par la même porte dans la chambre où se trouvaient les autres disciples. C'est là qu'il se présente de nouveau à eux. Mais c'est une curieuse histoire parce qu'ils ont fait le chemin de Jérusalem à Emmaüs avec Jésus, mais ils ne l'ont pas reconnu. Maintenant, ils font le chemin d'Emmaüs à Jérusalem pensant que Jésus n'est pas avec eux. Mais Jésus est avec eux tout le long du chemin et va les suivre jusque dans cette chambre haute où il va se manifester à tous les disciples. Et je crains que souvent dans notre existence, nous vivions quelque chose de semblable. Nous traversons la vie, nous traversons parfois certaines journées en nous lamentant de la misère, de la difficulté, des problèmes qui nous accablent. Et Jésus est là à nous écouter, vider notre sac de misère et d'amertume. Et lorsque nous aurons vidé notre sac, il sera prêt aussi à nous remplir de sa parole. Parce que c'est sa parole qui va remettre de la joie dans notre cœur et rendre un sens à notre vie. Et même si nous ne le voyons pas, Jésus a promis à ses disciples devenus apôtres, Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Juste avant de leur dire ça, il disait à ses disciples, « Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. » Jésus les envoie, et alors même qu'il les envoie, il leur dit, « Je suis avec vous tous les jours. » Nous avons cette promesse. Nous voulons être disciples, mais nous sommes aussi ses envoyés. Pour autant que nous avons fait le chemin d'Emmaüs, que nous l'avons rencontré dans ce repas d'alliance, nous pouvons aussi être cet apôtre que Jésus envoie avec cette même promesse. Jamais tout seul. Les disciples d'Emmaüs, ils l'ont dit, ils l'ont vécu, leur cœur brûlait en eux. J'ai du mal à imaginer la joie de ces deux disciples, assis à table avec Jésus, voient tout d'un coup que ce visiteur, c'est Jésus lui-même. Je crois que nous ne pouvons pas imaginer la joie dans leur cœur, ce qui s'est passé en eux au moment où Jésus s'est présenté à eux, quelques instants seulement. Et pourtant, je lis dans l'Évangile une parole que j'ai du mal à comprendre. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24, Jésus présente les signes des temps. Et il présente une image de son retour. Et il dit, « Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées des cieux avec puissance et une grande gloire. » Et là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que le texte me dit « toutes les tribus de la terre ». Le monde entier va se plaindre et se lamenter parce que Jésus revient. Comment se fait-il que le monde n'est pas content? Comment se fait-il que le monde n'est pas heureux de voir Jésus revenir? Je crois que la réponse est dans notre texte. Si nous voulons être heureux de voir Jésus revenir, si nous voulons être de ceux qui disent « voici c'est notre Seigneur, nous l'avons attendu », il faudra que nous ayons avec lui déjà ce lien quotidien maintenant, aujourd'hui. Il faudra que nous puissions dire « c'est celui que j'ai rencontré tous les jours dans l'étude de sa parole, dans la prière, dans la mission dans laquelle il m'a envoyé ». Seront heureux de voir Jésus revenir ceux qui auront fait de Jésus leur ami quotidien, leur sauveur personnel. Parce que le christianisme, voyez-vous, le christianisme, ce n'est pas un dogme. Le christianisme, ce n'est pas un enseignement. Le christianisme, ce n'est même pas une église, un bâtiment. Le christianisme, ce n'est même pas un rite. Ce n'est pas un héritage culturel ou national. Le christianisme, c'est une personne. C'est la personne de Jésus. Et si je n'ai pas en Jésus un ami suprême, je ne vais pas me réjouir lorsqu'il va revenir. Ceux qui se réjouiront de son retour sont ceux qui se réjouissent chaque jour de le rencontrer, de l'entendre, de lui parler. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, se trouve cette parole très forte de Jésus qui résonne aussi dans notre histoire. Évangile de Jean, chapitre 14, au verset 23, il est écrit ceci. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Ce texte est une bonne nouvelle extraordinaire, parce que Jésus est en train de dire, si vous êtes vraiment mes disciples, si pour vous la parole de Dieu est essentielle, alors ce n'est pas seulement Jésus qui va venir habiter en nous, c'est aussi le Père. Nous ferons notre demeure chez lui. Et souvenez-vous, ce chapitre, Jean chapitre 14, c'est le chapitre où Jésus parle non seulement de son retour, mais de ce qu'il va faire pour ses disciples en attendant son retour, leur donner la puissance du Saint-Esprit. Dans notre histoire, qui est rapportée dans l'Évangile de Luc au chapitre 24, l'histoire des disciples d'Emmaüs, comme nous le disons, il y a encore une richesse que je trouve extraordinaire pour nous aujourd'hui. Les deux disciples, Cléopas et sa femme ou son ami, sont rentrés dans leur village d'Emmaüs depuis Jérusalem. Mais où se trouve Emmaüs aujourd'hui? Alors les historiens ont cherché à situer Emmaüs sur la carte et ont proposé plusieurs solutions. Mais en réalité, il y a une seule solution qui correspond avec les indications du texte biblique. Le village d'Emmaüs, C'est aujourd'hui un village qui s'appelle Abou Ghosh et qui se trouve à 11 kilomètres à l'ouest de Jérusalem. Mais Abou Ghosh, ce n'est pas le nom du village d'autrefois. Dans l'Ancien Testament, ce village s'appelait Kiryat Yéharim. Peut-être que ce nom ne vous dit rien. Mais si nous retournons dans l'Ancien Testament, nous retrouvons l'histoire de Kiryat Yéharim. Elle nous est rapportée dans le premier livre de Samuel, au chapitre 7, où il nous est rapporté que dans la guerre avec les Philistins, le peuple d'Israël avait perdu la bataille et les Philistins avaient détruit la ville de Silo. Les Israélites étaient partis avec l'Arche de l'Alliance comme une espèce de talisman, espérant que ça leur garantirait la victoire. Les Philistins ont détruit la ville de Silo et ils ont détruit en même temps le sanctuaire que Moïse avait construit dans le désert et qui, après l'Exode, avait été reconstruit dans cette ville. Donc tout le sanctuaire va être détruit. Seule l'Arche va être préservée. Finalement, après avoir rendu l'Arche aux Israélites, cette Arche va être installée à Kiryat Yéharim, le village d'Emmaüs. Et ici, l'image est extraordinaire. Souvenez-vous, lorsque Dieu parle à Moïse et lui donne les instructions pour le sanctuaire, il dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » C'est sûr, le sanctuaire est une image de Jésus. Il annonce Jésus, il annonce le ministère de Jésus. Mais c'est exactement ce que les disciples d'Emmaüs ont fait. Ils ont supplié, imploré Jésus de venir chez eux, de faire de leur maison un sanctuaire. Maintenant, souvenez-vous, 2 jours avant, Jésus est mort sur la croix. Et au moment où Jésus est mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré en deux, montrant par là que le temple perdait tout son sens. Le temple qui annonçait tout ce que Jésus est et tout ce que Jésus fait, trouvait sa réalisation dans la personne du Christ lui-même. Ce temple n'avait donc plus raison d'être et le voile s'est déchiré. Jésus proposait à ses disciples un nouveau temple. Jésus aurait voulu que chacun de ses disciples devienne le temple du Saint-Esprit. Mais même si le temple est détruit, l'arche demeure quelque part. De la même manière que à Silo, le sanctuaire a été détruit, l'arche a été préservée. De la même manière, lorsque le temple a été détruit par Nebuchadnezzar, l'arche a été cachée quelque part parce que cette arche de l'Alliance est symbole d'une alliance que Dieu fait avec tous ceux qui acceptent que Jésus soit leur sauveur et qui veulent reproduire les 10 commandements qui se trouvent dans cette arche. Un jour, ces 10 commandements vont réapparaître aux yeux de l'humanité entière pour montrer à quel point la loi de Dieu est permanente, à quel point le caractère de Dieu, c'est ce que Dieu veut restaurer en chacun d'entre nous. Ainsi, dans cet Emmaüs, Jésus se présente à ses disciples. Il souhaite faire de leur cœur le nouveau temple du Saint-Esprit. Et là, il veut y reproduire son caractère, faire une nouvelle alliance avec eux. Ce n'est pas pour rien que Jésus a fait le chemin avec les disciples, parce que ce sont les disciples d'Emmaüs, ce sont les disciples de Kiryat Yéharim, ce sont les disciples d'aujourd'hui, et le Seigneur invite tous les disciples d'aujourd'hui à faire le même chemin, devenir les nouveaux temples du Saint-Esprit, les nouveaux temples de Jésus par son Saint-Esprit, pour qu'il restaure en nous l'image de son caractère. Que le Seigneur nous aide à refaire le chemin avec les disciples et que notre cœur brûle au-dedans de nous alors que nous le recevons comme notre Sauveur personnel. Amen.